sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, comme jeudi dernier, avec Alexandre Planck, parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs que dans la vieille Europe. Comment fait-on de la radio en Centrafrique quand on n'a pas peur de mettre sa vie en jeu et que la radio est un des rares outils de liberté? Nous l'avons compris lors du premier épisode de Making Waves à Bangui, en écoutant Sylvie Panica et les journalistes de Radio Ndekeluka.
Et aujourd'hui, cap sur Democracy Now avec Amy Goodman.
Oui Hervé, nous allons vivre au rythme américain quand il est subversif avec Democracy Now, mais aussi PRP, le Prometheus Radio Project, élaboré par un réseau d'activistes issus de radios pirates de la côte est des États-Unis. Deux projets qui demandent pour être compris une contextualisation à laquelle Alexandre Planck et Bastien Varigaud nous convient.
On s'est dit quelque part le porte-voix des sans-voix.
We want to change people's life. Move on. Let the gospel go on.
Bienvenido a la primer programa de radio de Pekun.
On doit se manger, faire du sport, on doit s'y emballer. On doit occuper nos mains et aller mingi na si c'est wado.
Aux quatre coins du monde, des radios indépendantes, communautaires ou militantes s'efforcent de démontrer que des alternatives aux discours dominants, aux impasses économiques et aux régimes autoritaires existent.
Il y a toujours des menaces, tu ne peux pas travailler librement. Il fallait à chaque fois te cacher pour recueillir des informations.
When we started the station, we had no idea what radio was.
En inventant des espaces d'échange, de réflexion et de dissension, ces radios se font l'épicentre de mouvements de pensée, de fronts de résistance ou de rêves de société.
I think the media can be the greatest force for peace on earth.
This is Radio Free Nashville officially signing off.
Vote power to the people.
Making Waves est une série documentaire qui veut croire que la radio, en créant des possibilités de parole et de rencontre, peut être un rempart et une lueur, qu'un émetteur peut devenir le foyer d'un contre-feu, et qu'un micro peut être le porte-voix d'une génération, d'un peuple ou d'une classe sociale. Les États-Unis sont un pays saturé d'informations, de chaînes de télé, de stations de radio et de journaux. Des informations qui émanent d'un nombre très limité de sources. 90% de ce qui est vu, entendu ou lu ici est dicté par les choix politiques et stratégiques d'une poignée de grands groupes. Des conglomérats de médias, actifs également dans d'autres secteurs industriels, que ce soit l'automobile, la chimie ou l'armement. Des milliers de chaînes et de stations, mais peu de voix, peu de points de vue. Et à l'échelle d'un pays si peu homogène, une information bien souvent globale et partisane, plutôt que locale et citoyenne.
Americans have always had a genius for communications.
En 1996, Bill Clinton signe le Federal Telecommunications Act, qui permet une dérégulation presque totale des médias. Il est désormais possible à une entreprise de posséder autant de chaînes de télé et de stations de radio ou de journaux qu'elle le souhaite. Cette loi eut de profondes répercussions sur la bande FM américaine. En deux ans, plus de 4000 radios indépendantes, non commerciales ou communautaires, furent cannibalisées et se muèrent en des radios commerciales et nationales. Les fréquences qui restaient à disposition furent, elles, rachetées à grands coups de dollars.
I have almost as big of a problem with that number for CNN as I do for Fox.
Face à cette appropriation massive des ondes et de l'information, face à leurs conséquences sur le journalisme et la diffusion des mouvements politiques et sociaux, des voix s'élèvent, des groupes se forment, des radios et des émissions pirates et alternatives naissent aux quatre coins du pays. En 20 ans, une résistance et une riposte radiophonique s'est organisée. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, la manière dont ils affectent chaque jour les Américains, et les stratégies que mirent en place jusqu'à aujourd'hui journalistes, producteurs et pirates pour se réapproprier les ondes, nous partons pour ce deuxième volet de Making Waves à Washington, à Philadelphie et à New York, à la rencontre de ceux qui, en 20 ans de combat, libérèrent la radio de la mainmise des grands groupes.
Broadcasters know it as pirate radio. Supporters say community stations like KFAR are under attack by big broadcasters.
À Washington, je rencontre Craig Aaron, le directeur de Free Press,
un groupe d'agitateurs luttant pour la liberté et l'indépendance des médias.
Free Press est une organisation nationale, apolitique et à but non lucratif, qui s'occupe des questions liées aux médias et à la démocratie. On a commencé il y a 10 ans, quand on a réalisé qu'un nombre incroyable de décisions déterminantes pour les médias étaient prises à Washington, au nom du peuple, mais sans qu'ils soient consultés. D'où l'idée à l'origine de Free Press, d'impliquer le peuple dans ses prises de décision. Les médias suscitaient beaucoup de mécontentement à travers le pays, mais personne ne s'était attaqué à l'aspect structurel et politique de ces décisions. C'est pour ça qu'on a créé Free Press. On s'est rendu compte que beaucoup de gens se sentaient concernés. Après 10 ans d'existence, on compte plus de 650 000 membres avec lesquels on est en contact régulier et avec lesquels on travaille à ces questions et à ces problèmes.
Et les problèmes sont nombreux tant les médias sont partisans. Les industriels qui possèdent des organes de presse sont évidemment tentés de limiter la propagation d'idées et de propos n'allant pas dans le sens de leurs intérêts financiers. Et aux États-Unis, pour lutter contre un tel contrôle et un tel appauvrissement du débat démocratique et de la libre expression, aucune instance de surveillance n'a jamais été mise en place.
Concernant les médias, il existe aux États-Unis une commission de régulation, l'Agence fédérale des communications, la FCC, qui est responsable des réglementations. Mais il existe également un lobby constitué de personnes extrêmement bien payées, pour beaucoup d'anciens membres de la FCC, qui tentent d'influer sur les décisions, de dicter les règlements et les lois. Les groupes de médias sont ceux qui dépensent le plus pour tenter d'influencer le gouvernement, encore plus que les industries du gaz et du pétrole.
Those are lobbyists. The word sounds ominous, doesn't it? Lobbyists.
Hey, Senator, you old man.
Mr. Congressman. Congressman.
Here's what we know. They're definitely active.
Le lobbyisme aux États-Unis est le bras armé des grandes entreprises auprès des pouvoirs publics. Et c'est un bulldozer idéologique. À Washington, il y a un ratio de 23 lobbyistes par sénateur. Et les lobbyistes œuvrant pour les conglomérats de médias, comme ceux de la NIB notamment, la National Association of Broadcasters, sont parmi les plus virulents et les plus antidémocratiques. Ils luttent contre l'équilibrage de la représentation politique sur les ondes, contre toute forme de protection des auditeurs, contre le droit des radios locales à diffuser de la publicité.
Poof! Welcome to a world without lobbyists.
On est à un tournant intéressant dans ce pays, car jusqu'à présent, seuls les membres de la FCC, les représentants officiels du gouvernement et les grands médias avaient voix au chapitre. Il y avait très peu de prise de conscience ou d'implication de la part de la population. Et c'est comme ça qu'on a abouti au système d'information qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire dominé par une dizaine de compagnies.
Ces conglomérats sont bien connus. À la télé, c'est Disney, General Electric, Century Fox, Time Warner, CBS et Viacom qui se partagent le marché et possèdent 92% des chaînes américaines. À la radio, c'est Infinite Broadcasting avec ses 323 stations, Cumulus Media qui en possède 624 et Clear Channel avec ses 1400 antennes.
This is not a good development where you have fewer and fewer interests.
Un tout petit nombre de compagnies qui, mis à part la radio publique et une centaine de radios communautaires passées entre les mailles du filet, se partagent la totalité des ondes.
The conflicts of interest are enormous and the result is that certain issues are talked about, certain issues are not talked about.
La situation est critique pour les journalistes. Ils subissent d'énormes pressions de la part des grands groupes de médias. 20 à 30 000 journalistes ont perdu leur emploi au cours des dernières années. Mais aussi de la part du gouvernement, ce qu'on observe de plus en plus. Le ministère de la Justice, la Maison Blanche, le Congrès prennent des mesures contre les journalistes indépendants. Par exemple, contre ceux qui ont rendu publics les documents fournis par Edward Snowden. Pour nous, le principe fondamental, et qui est inscrit dans l'idéal américain depuis toujours, c'est que la démocratie ne peut pas fonctionner si la presse ne fonctionne pas. Et si les médias ne mettent pas nos dirigeants face à leurs responsabilités? Et malheureusement, depuis 30 ou 40 ans, les États-Unis se sont éloignés de cet idéal. Dans toutes les rédactions que j'ai connues, il y a des journalistes qui individuellement font un travail remarquable. Mais la pression et la concentration des grands groupes de médias rendent le vrai journalisme d'investigation de plus en plus difficile. Les murs entre les salles de rédaction et les conseils d'administration, entre les micros et les industries, se sont en effet effondrés. La mainmise des managers et des grands groupes sur l'information a désarmé les journalistes, plus que jamais contraints à la censure et à l'autocensure, et soumis à des éléments de langage imposés par la publicité, le sponsoring, ou une ligne éditoriale dictée par les intérêts stratégiques et économiques des multinationales qui les emploient.
To shut up.
You know, in the United States, we spend about aux États-Unis, on dépense environ 1,35 $ par habitant et par an pour les médias publics, soit moins que le prix d'un café. Il n'y a pas de redevance audiovisuelle ou de choses comme ça, mais pourtant il y a de l'argent. Mais on préfère le dépenser pour d'autres choses, pour l'armée ou les réductions d'impôts. Mais si on dépensait 5 $ par tête d'habitant, on pourrait créer 10 000 emplois de journalistes, ouvrir des rédactions dans chaque quartier et mieux servir l'intérêt général.
Aux États-Unis, l'aide aux médias est si faible que même la radio publique doit chaque année demander à ses auditeurs de lui venir en aide. Les médias libres, eux, ne percevant rien, se financent tant bien que mal, grâce à des dons, des abonnements, du crowdfunding, par la vente de livres, de t-shirts ou d'autocollants. Une économie de la débrouille, l'unique moyen de survivre en préservant son indépendance.
Nous pensons que pour avoir une démocratie digne de ce nom, il faut des citoyens bien informés. Et ce n'est possible que si on se donne les moyens financiers pour un journalisme de qualité. Mais depuis environ un siècle, le journalisme n'est qu'un support publicitaire. Il y a eu comme une anomalie historique. Pour vendre des voitures ou faire de la publicité pour des têtes d'oreiller, la meilleure chose à faire, c'était de devenir propriétaire d'un journal pour faire passer l'info. Quelque chose a été définitivement brisé. Est-ce que nous allons utiliser ces outils pour étendre les droits individuels ou supprimer la vie privée? Est-ce que notre démocratie va continuer de fonctionner ou est-ce qu'on va devoir y renoncer sous prétexte que les grands médias ne veulent plus faire de journalisme? Je pense que ces questions sont fondamentales et qu'elles sont liées à toutes sortes de sujets sensibles. Que ce soit l'environnement, le droit des femmes, nos conditions de travail, les impôts, la façon dont les médias traitent ces questions, l'importance et le sérieux qu'ils leur accordent sont déterminantes pour faire évoluer ou non la situation.
Et le voilà le dilemme. Les radios ici sont le porte-voix de grands groupes faisant passer le bien commun au dernier rang de leurs préoccupations. Pour maximiser leurs profits, ce sont les mêmes émissions et les mêmes playlists qui sont diffusées à une échelle nationale, sans la moindre diversité. Les ondes, lorsqu'elles sont privatisées, deviennent des robinets à infotainment, occupés à 85% par des hommes blancs et à 88% par des républicains. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont les mêmes gros titres et les mêmes 25 morceaux de musique qui sont diffusés en un flux ininterrompu sur l'ensemble des postes de radio du pays.
I wouldn't mind if someone shot those guys. That's all that is. Those guys have tiny penises. You don't even have to think about it twice.
Just imagine you're sitting down to dinner with your family at a restaurant when in walks a handful of men armed with assault rifles. Are you frightened?
911, what is the emergency?
It looks like I've seen 4 white men.
If a bad guy comes, there's a lot of good guys here to protect me.
And they'll be talking to their parents crazy, and she would turn around and say, I'll eat you up for breakfast and I'll spit you out. And she would put them in boot camps and they would have to be in, like, go see people in jail, and they get scared and they'd be like, you don't want to end up like this. It was really good and I really liked her and I liked those glasses.
Oh, that's a good one. That's a good one.
Tell me, Jesse, off my elbows. Yeah.
How can somebody only be in for 45 minutes?
I don't know.
I'm here today to confront my friend and my boyfriend that have been sleeping together. How can you do this to me?
You all suck so hard. Why do I have such a horrible crew?
Hey, Michinano. Hey.
Education, education.
what you're hooping for. Community.
Radio.
Community.
Radio. Radio.
Radio.
Les ondes, bien que presque entièrement accaparées par de grands groupes, sont pourtant considérées par le Radio Act, une loi du Congrès de 1927, comme une ressource naturelle, au même titre que l'air ou l'eau. Une ressource appartenant équitablement à l'ensemble du peuple américain, et devant servir, je cite, « l'intérêt public ». La dérégulation de 1996 est le résultat de décennies d'un lobbyisme agressif de la part de la National Association of Broadcasters. Il en résulte qu'en quelques années, les ondes ont été confisquées à la communauté et aux radios de proximité. Le nombre de radios non commerciales passe alors de 33 à 2%. Par contre-coup, ce sont des centaines de radios pirates qui voient le jour un peu partout. En 1999, on les estimait à plus de 1500. Des radios musicales autant que des radios politiques ou sociales, visant à défendre des points de vue différents que ceux prônés sur les ondes commerciales. Le gouvernement américain parvient à en localiser et à en fermer chaque année 200. Leurs transmetteurs sont saisis, mais presque toujours, elles réouvrent aussitôt, ayant plusieurs transmetteurs en stock. Au début des années 2000, des pirates et des radioactivistes décident de passer à la vitesse supérieure. Considérant l'appropriation et le rachat des fréquences comme anticonstitutionnelles et contradictoires avec le premier amendement, celui de la liberté d'expression, ils entreprennent ensemble de libérer les ondes. Réunis sous le nom hautement symbolique de Prometheus Radio Project, le projet Radio Prométhée, leur combat dure encore aujourd'hui. À Philadelphie, j'ai rendez-vous dans un petit bar de Broad Street avec Anthony Mazza, un des pirates qui a rejoint le projet Prométhée en 1999.
They were largely from the pirate radio movement that sort of blew up in the United States.
La plupart des membres du groupe venaient du mouvement des radios pirates qui s'est largement développé aux États-Unis au milieu des années 90. Il y a eu beaucoup d'histoires très médiatisées à l'époque. Beaucoup d'entre eux faisaient aussi partie de milieux activistes, comme Indie Media, qui ont littéralement explosé après les manifestations à Seattle contre l'OMC. Indie Media s'inscrit dans un courant de médias alternatifs qui produisait de l'info vidéo et audio. Beaucoup des premiers activistes de Prometheus venaient de ce mouvement et étaient en lien avec un tas de radios pirates à travers le pays. Ces radios pirates avaient toutes une couleur particulière, car la plupart étaient ancrées dans un contexte local. Et même si c'est difficile de généraliser, beaucoup d'entre elles venaient de milieux anarchistes. Je crois que ça se sent encore aujourd'hui dans notre travail.
La radio pirate aux États-Unis, c'est l'histoire d'une désobéissance civile et de la réappropriation d'un outil collectif. Ce que revendiquent ces radios, ce sont d'autres discours, d'autres voix, d'autres idées que les médias dominants. C'est une autre façon de penser et d'investir la communauté. Contre la standardisation des ondes, ils prônent le local, le participatif et la mise en commun. Ils revendiquent la radio comme un espace de gratuité, de liberté, de sociabilité et d'expérimentation.
Harp Electronics, that's Shah and Ramsey. And not forgetting the lovely lady across the road, Shima. Good morning to you. How are you, right?
Pour ces pirates, le droit à la communication fait partie des droits de l'homme.
Et la FCC s'était fourvoyée en refusant ou annulant l'autorisation de diffuser à des radios communautaires qui existaient depuis 20 ou 30 ans. Quand les interdictions de diffuser sont tombées, ils se sont dit que c'était la fin. Il y a eu des affaires très médiatisées, notamment en Floride, où il y a eu des descentes de police armées dans les radios. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui sont emblématiques de cette période. Une période très agitée. Les gens défiaient les autorités et on le leur faisait payer.
Broadcasters called themselves Radio New York International and they had thumbed their noses at the Federal Communications Commission by beaming their show without an FCC license. But today the FCC pulled the plug.
Who are the real pirates? We feel that
pour nous, les vrais pirates, ce sont les gens de la FCC. L'Agence fédérale de communication s'est accaparée les ondes, les nôtres et les vôtres, pour les revendre plus offrant. Ce sont eux les pirates, eux qui se font de l'argent. Nous, nous sommes des petites radios qui s'adressent à tous ceux qui pensent que le public et la communauté ont droit à leur propre radio.
Transmitting what they call free-form radio, with a rock and roll accent and a pacifist beat.
from this decrepit ship. Their mission, not only to provide an alternative service, they said, but to strike a blow for unregulated radio.
We just wanted to provide free, uncensored radio to the listeners in the metropolitan area.
They killed and arrested three people for violating international radio regulations by broadcasting without a license. If convicted, the operators could face up to 5 years in prison and a fine of $250,000.
Do you have any message to your listeners?
Yeah, please, be behind us. I mean, support
we
free radio.
Your help. We need your support. Your help.
But for now, the only sound from the rusty old ship will be silence.
Why can't I see a search warrant?
The pirate radio station has been silenced, but these unlicensed broadcasters are committed to expressing themselves, so stay tuned.
One of the first things they did is they went on tour.
Une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été de faire un grand tour à travers le pays. À l'origine, beaucoup d'entre eux étaient basés ici, à Philadelphie et à New York, parce que c'est là que les choses ont démarré. Ils ont pris leur voiture et ils se sont rendus dans plusieurs régions pour voir ce que les autres radios faisaient sur place. Ils sont partis en Floride, à Austin. Le mouvement des radios pirates était très important au Texas. Ils sont allés à la rencontre des gens et ils ont recueilli leurs expériences. Après leur périple, ils sont rentrés à Washington et ils ont organisé de nombreuses manifestations dont une a fait beaucoup de bruit. Ils sont allés au siège de la National Association of Broadcasters et ils ont remplacé le drapeau américain par le pavillon noir, une manière symbolique de dire qu'ils prenaient le contrôle des ondes. Ça a été un moyen efficace d'attirer l'attention des médias, mais aussi celle d'avocats basés à Washington, qui avaient basé leur réputation dans le domaine des droits civiques et de la législation des médias. Ces avocats n'avaient pas de connexion avec des activistes. Ils connaissaient les mécanismes du Congrès, mais ils étaient un peu comme le canari au fond de la mine, capables de voir tout ce qui n'allait pas, et de parler entre eux dans leur jargon d'avocat, mais ils étaient incapables de faire bouger les choses. C'est à ce moment-là que Prometheus entre dans la danse et leur démontre qu'énormément de gens ont conscience de ces enjeux et sont résolus à s'y opposer. Et ça, ça les a excités. Ces avocats et ces activistes timbrés, c'était vraiment l'addition des deux éléments et des deux forces qu'il fallait pour faire bouger les choses.
Les propositions qui furent faites à la Federal Communications Commission furent très simples. Débarrasser une partie de la bande FM des radios privées pour la réserver aux radios non commerciales et permettre à qui le souhaite de posséder un transmetteur de 10 watts, lui permettant d'émettre à 3,5 miles, c'est-à-dire à 5,6 km à la ronde. C'est ce qu'on appelle la Low Power FM, la FM à faible puissance, de la FM de proximité, de quartier, de voisinage.
Les employés de l'agence fédérale se sont en fait montrés très réceptifs. Ils n'ont manifesté aucune opposition. Pour les militants qui n'avaient pas l'habitude de voir les choses aboutir aussi facilement, cette victoire était un peu comme un choc. Et pour les avocats aussi. Même s'ils avaient déjà gagné ce type de bataille, ils pensaient qu'ils mettraient plus de temps à obtenir ce qu'ils voulaient. Mais la FCC a très vite accepté. Ils avaient conscience qu'ils devaient se positionner vis-à-vis du public. Ils savaient aussi que tous les arguments scientifiques en faveur de la FM de proximité étaient solides et techniquement viables.
The scientific argument that these low power operators were making was completely sound. The engineering was completely supported.
La FCC est essentiellement constituée de techniciens bureaucrates. Ils ne sont pas vraiment politisés. Si vous parlez le même langage qu'eux et que vous êtes prêt à leur démontrer qu'il y a une demande et que cette demande est en accord avec leur directive, ils se montrent tout à fait raisonnables.
They're actually pretty reasonable, you know, they'll hear you, you know. And in 2000
En 2000, les premières radios de proximité ont été autorisées à émettre. Ce que la FCC a mis en place était très proche des revendications des militants et vraiment conçu pour être au service des différentes communautés. Il y a eu 13 000 demandes de licence, une énorme victoire. Mais c'est là que l'histoire est vraiment partie dans tous les sens, quand le Congrès s'en est mêlé.
Congrès
s'est mêlé.
Le Congrès américain, c'est là que sont élaborées et votées les lois. Et c'est dans ces couloirs que les fameux 23 lobbyistes par congressman rôdent pour le compte de grands groupes et de leurs intérêts. Or, l'intérêt de l'industrie radiophonique, ce n'est pas de partager les ondes avec des radios qui les priveraient d'une partie de leur part de marché et de leur influence.
Des membres très conservateurs du gouvernement ont eu peur. Peur que le pouvoir de la communication passe aux mains des citoyens et des groupes communautaires. Ils avaient parfaitement conscience de la force que représentent les médias, puisqu'eux-mêmes les utilisaient de manière très efficace. Et en aucun cas, ils ne pouvaient tolérer que des voix s'opposent à celles qui leur avaient permis de garder le contrôle. Quand le Congrès a réalisé ce qui était en train de se passer, il a fait une chose sans précédent. Il a mis la FCC au pas. C'est très rare que le Congrès impose sa volonté à l'agence fédérale. Mais parfois, les choses prennent une tournure politique et le Congrès intervient pour freiner son pouvoir. En général, ils ont recours à des arguments pseudo-scientifiques, même si rien ne les y oblige. D'autant que ce ne sont pas des spécialistes comme les techniciens de la FCC, mais ils veulent se donner des airs scientifiques. Du coup, ils ont fait des déclarations totalement ridicules, soi-disant fondées sur des rapports scientifiques, à savoir que si la petite centaine de radios qui avait déjà été créée continuait d'émettre, les avions tomberaient du ciel. Et ils ont déclaré tout ça sous serment.
C'est un peu comme si en France, l'Assemblée nationale imposait au CSA, une instance autonome, ses choix et arbitrages, en usant d'arguments délirants. Outre que les radios communautaires à faible rayonnement allaient parasiter les communications aéronautiques, les interférences que leurs antennes allaient engendrer rendraient également inaudible la totalité de la bande FM dans l'ensemble des villes américaines. Et pour faire entendre cela aux 535 membres du Congrès, les lobbyistes de la National Association of Broadcasters n'y allèrent pas de main morte. Ils remirent à chacun des membres du Congrès un CD intitulé « La plus dangereuse loi de l'histoire de la radio ». Sur ce CD, des ingénieurs avaient simulé ce que serait la bande FM avant et après l'ouverture des ondes aux radios non commerciales. Cette chanson, Mrs. Robinson, n'avait pas été choisie par hasard. C'est l'un des 25 titres qui tournent en boucle sur les radios commerciales de Cumulus Media et le Clear Channel. En 15 ans, il a été joué 6 millions de fois. Mis bout à bout, ce sont 32 années non-stop de diffusion.
Congress is designed to kill groups like Prometheus and kill. Le Congrès a vocation d'éliminer les groupes comme Prometheus et de briser les rêves comme celui de faire émerger des radios intelligentes. Il est au service de puissants intérêts financiers et ceux qui ont l'argent comprennent vite et facilement par qui passer pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand c'est un groupe, comme Prometheus, qui arrive avec son propre programme, les choses deviennent plus troubles. Et pendant 10 ans, on est resté bloqué dans une espèce d'univers à la Alice au Pays des Merveilles. Chaque année, on se disait qu'on avait des chances de voir la législation changer, mais impossible de savoir si oui ou non la loi allait être adoptée. Alors chaque année, on remettait ça.
10 ans d'arguments et de contre-arguments, d'expertise et de contre-expertise. 10 années durant lesquelles les conglomérats tentèrent d'enterrer les low power radio. 10 années durant lesquelles il fallut aux radios pirates et communautaires inventer les moyens de résister, de se faire entendre, de rallier le plus de monde possible à leur cause.
Wouldn't be an interference issue. I mean, if the issue's interference, do you think that somehow a low power FM station operating at 250 watts would cause interference that a translator wouldn't?
Nous sommes ici pour soutenir le projet d'une radio communautaire résistante dans chaque ville et chaque métropole du pays.
Manifestation devant le Congrès américain à Washington, 5 décembre 2007.
Sénateurs, l'heure est venue de faire passer cette loi.
instead of just throwing up our hands and walking away.
Plutôt que de s'avouer vaincu, on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut savoir qu'à l'époque, les communautés rurales et urbaines n'avaient pas souvent l'occasion de travailler ensemble. Et une des choses géniales avec les médias, c'est que c'est un moyen de faire tomber les barrières qui séparent les gens. Alors on s'est dit, ok, si c'est le seul choix qui nous reste, eh ben on ira construire des stations à la campagne, des radios rurales qui vont tout casser et qui montreront l'exemple à suivre. Alors on a commencé à faire des barn raising, des chantiers collectifs. En gros, on montait une station de radio en un week-end avec l'aide de bénévoles. La moitié d'entre eux appartenait à la communauté locale, l'autre moitié venait des quatre coins du pays. Certains appartenaient à des radios déjà existantes et avaient toutes sortes de savoir-faire qu'ils venaient partager avec nous. Il y avait une ambiance vraiment festive pendant les chantiers. On travaillait tout le week-end à la construction de la station, et à la fin du week-end, on appuyait sur « on » et la radio diffusait son premier programme. C'était un moment vraiment fort, et en 5 ou 10 ans, on a mis beaucoup de ces radios communautaires sur pied. C'était intense émotionnellement et ça crée une vraie solidarité entre tous les gens qui participaient. À l'époque, on organisait 2 ou 3 barn raising par an.
Barn raising events each year.
All right, we're all here.
Ces barn raising, c'est des stations construites en 2 jours et en pleine campagne, par la communauté et pour la communauté, pour faire pression sur le Congrès. Elles n'émettent généralement que quelques heures avant que les agents gouvernementaux n'arrivent et ne confisquent le matériel. Mais ces stations éphémères font en peu de temps suffisamment de bruit pour connaître un retentissement national.
We think it's good for as many good people to know how to make radio stations as possible.
Radio production teams are teaching brand.
Des équipes de production expliquent aux apprentis reporters comment aller avec un micro et un mini disque dans leur communauté pour récolter les infos locales. Comment les monter pour faire un sujet radio qui sensibilisera les auditeurs sur des questions dont on ne parle jamais ailleurs. C'est un enseignement incroyable. Il y a toutes sortes d'enseignements formidables, très techniques, pour tout apprendre sur la radio, qu'on soit novice ou confirmé. Comment fabriquer un émetteur, comment régler une antenne, comment faire en sorte que la communauté qui fabrique et diffuse les programmes garde le contrôle de la radio une fois qu'elle est sur les ondes. On n'organise pas des chantiers collectifs pour le plaisir de faire dormir 150 personnes dans la boue ou leur mettre un fer à souder entre les mains pour la première fois de leur vie. Ce n'est certainement pas la méthode la plus efficace pour construire une station de radio, mais c'est la meilleure pour mettre en place ce mouvement qui a pour objectif la maîtrise de médias démocratiques par les communautés. En même temps qu'on construit ces stations, on forme des experts et on crée la force de cette radio. On ne fait pas seulement un chantier aux allures de fête, on donne aussi la preuve aux législateurs, aux membres du Congrès et à la FCC de l'importance que représente ce service et de la responsabilité qui leur incombe envers toute la population américaine.
Première minute d'antenne de Radio Free Nashville, une radio éphémère créée en 2005.
WRFN Pasquo, this is Radio Free Nashville officially signing on.
Totally unprofessional. Low power to the people. Low power to the people.
Nous sommes en 1996. Les grands groupes de médias utilisent argent et menaces pour faire passer la loi sur la télécommunication et marcher sur le Congrès comme les nazis sur la Pologne. Voilà qui marque la fin de la liberté d'expression et force la démocratie américaine à ravaler ses principes. Mais bientôt quelque chose survient. Certains appellent cela providence ou intervention divine, une petite étincelle de résistance qui a continué à briller jusqu'à aujourd'hui pour devenir un feu et mettre en lumière ce que sont vraiment ces corporations de médias prostituées et les mettre à genoux.
Nashville, 1998. Oh, they're coming! thing. I can hear the zombies breaking down our station door. This is Radio Free Nashville, 98.9 FM, and this is our first broadcast.
Meanwhile, in the background, have the legislative campaign going. And that's the thing, when you think about the sort of energy that you're...
Parallèlement à tout ça, on menait campagne pour faire changer la législation. Il faut imaginer l'énergie que les chantiers généraient, les liens que tissaient les gens entre eux. Eh bien, construire une station de radio et se mobiliser pour faire changer une loi fédérale, ça ne demande pas du tout la même implication. C'est tout un tas de mails barbants à envoyer, de courriers à faire, de coups de fil à passer, et il ne suffit pas d'appeler la bonne personne. Il faut l'appeler un jour précis, à une heure précise, et faire part de son expérience en lui racontant des choses très précises. Le problème, c'était de trouver le moyen d'inciter les gens à s'investir dans ces trucs vraiment stupides, mais qui vont avoir un impact réel sur l'adoption d'une loi fédérale. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu leur demander si on n'avait pas établi des relations fortes avec eux. Ces chantiers collectifs ont aidé les gens à se représenter ce dont il était vraiment question. Et ça, ça a été l'élément clé de notre réussite.
La bataille contre le Congrès dure jusqu'en 2011. Et c'est grâce au lobbyisme citoyen que promettait eu gain de cause. Des pétitions ont rassemblé des centaines de milliers de signatures. Plusieurs manifestations ont eu lieu devant le Congrès à Washington et devant les différentes antennes de la Federal Communications Commission dans tout le pays. La pression exercée a fini par faire plier les membres du Congrès et la Cour suprême a enjoint la FCC à modifier sa législation pour considérer désormais la dérégulation et l'appropriation des ondes par un trop petit nombre de radios commerciales comme anticonstitutionnelles et nuisibles à la diversité des sources de l'information.
Queremos dar la bienvenida a todos los radioescuchas de KPCN 96.3 en tu radio. Bienvenido al primer programa de radio de Pekín. ¿Se puede?
Obama a signé le Local Community Radio Act, l'assurance pour les radios communautaires de se voir attribuer dans chaque ville un certain nombre de fréquences. Cette victoire du peuple sur les conglomérats de médias fut sans précédent. La FCC a lancé fin 2013 un appel à candidature pour l'attribution d'ondes FM sur l'ensemble du territoire. Ce sont cette fois encore des milliers de dossiers qui ont été envoyés. Ils ont été départagés en 2015, il y a tout juste quelques mois. Et depuis, de Denver à Baltimore, de Détroit à Portland, plusieurs centaines de radios communautaires, amateurs, citoyennes et participatives ont été inaugurées.
Speculate that we could do that was sort of...
Aucun autre groupe n'avait réussi à faire adopter une loi sur les médias, et imaginer qu'on puisse y arriver était sans doute très naïf. Mais on était porté par une immense vague de soutien de la part de tous les gens avec qui on avait fait de la radio communautaire pendant des années. Et on voyait bien le changement que ces petites radios apportaient dans la vie des gens et au sein de leur communauté. Elle contribuait à faire évoluer le point de vue des gens. Ils ne se contentaient plus de consommer de l'info, ils la produisaient eux-mêmes.
Nous ne possédons aucun média, et tous les médias sont contrôlés par des groupes qui n'ont pas la même version de l'histoire que nous, qui ne partagent ni notre point de vue, ni les intérêts de notre communauté. Mais ce sont eux qui ont la parole. Et nous, on est désarmés face à cela. Nous n'avons ni radio, ni journal à nous pour faire connaître notre vérité, nos propres versions, nos points de vue. Du coup, en un sens, ils contrôlent la lutte.
En tant que mouvement pour la justice sociale, nous devons nous battre pour ces espaces, nous les réapproprier. Nous pensons que les gens sont capables de raconter leurs propres histoires et de trouver leurs propres solutions aux problèmes qui les concernent.
Comment faire pour donner une information juste aux gens de notre communauté? Et comment faire pour avoir un vrai dialogue par-delà les frontières qui nous séparent?
Si on avait notre propre radio, si les gens pouvaient raconter à l'antenne ce qu'ils subissent, comment ils sont maltraités, parler de l'injustice, ça serait comme une soupape pour tout ce qui se passe à la fois en dedans et au dehors. Et ça les aiderait à libérer et à évacuer certaines des choses qu'ils subissent.
On ne sait pas parler dans un micro, on ne sait pas comment ça marche techniquement, on ne sait pas écrire de chronique ou mener d'entretien, mais on a des choses à défendre, des idées, des valeurs, un groupe de musique du coin ou une association d'amis. On a envie de dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. On a envie de parler à ses voisins, à sa ville, pour se rapprocher les uns des autres. C'est ça faire de la radio communautaire. Ne pas laisser ses désirs et ses histoires dans les mains de ceux qui possèdent déjà beaucoup trop. Et ne pas les laisser nous imposer ce qu'on écoute. Alors il nous faut notre antenne, notre station, nos micros et une fréquence bien à nous. Ici, chez nous, il nous faut un espace dégagé des contraintes marchandes et financières pour pouvoir se parler librement.
J'appuie à la radio communautaire.
Community radio 100%.
Low-powered, people-powered community radio.
We need community radio. Don't you think so?
This is Democracy Now! From Pacifica Radio, I'm Amy Goodman in Washington. Today on Democracy Now!, Live Free or Die, a look at the political landscape in New Hampshire, where the Republican Revolution has taken its toll.
Une des figures les plus importantes de ce mouvement des radios alternatives, indépendantes et communautaires, c'est Amy Goodman. Depuis 20 ans, sa voix s'élève sur les ondes américaines. Amy Goodman, c'est la fondatrice de Democracy Now!, une émission hebdomadaire financée par des dons, disponible gratuitement et diffusée aujourd'hui via des réseaux alternatifs sur plus de 1300 radios à travers les États-Unis et le monde, du Chili à l'Iran. Goodman, c'est un monument des médias alternatifs. Elle sait aller chercher l'information là où les autres ne vont pas, a couvert la plupart des conflits du globe, survécu au massacre d'un village au Timor oriental, a tenu tête à Clinton et Obama, a obtenu de nombreuses distinctions, dont le Right Livelihood Award, le prix Nobel alternatif, qui a également reçu Edward Snowden en 2013. Democracy Now! A été créé il y a 16 ans sur les ondes de Pacifica, un réseau de radio indépendante né sur la côte ouest des États-Unis. Le principe de l'émission, c'est celui d'une information faite du point de vue du citoyen. C'est de la radio de proximité diffusée à l'échelle mondiale. Il y a quelques années, Democracy Now! Est également devenu une émission de télé, ainsi qu'un site internet extrêmement bien fourni en documents sur les luttes en cours aux quatre coins du monde. À New York, au 11e étage d'un immeuble de la 23e rue dans l'ouest de Manhattan, j'ai rendez-vous avec Amy Goodman, dans les locaux de Democracy Now!, autrefois une imprimerie.
Democracy Now! A d'abord été la première émission quotidienne consacrée aux élections à être diffusée sur une radio publique aux États-Unis. C'était pendant les primaires qui ont précédé la réélection de Bill Clinton. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi la majorité des gens ne votaient pas. Comme n'importe quelle radio, nous avons parcouru tous les États, mais au lieu de sonder les intentions de vote, on s'est intéressé à ce que faisaient les gens à l'intérieur de leur communauté. À mes yeux, l'abstentionnisme n'était pas de l'indifférence, mais plutôt le sentiment de ne pas avoir le choix. Car malgré tout, les gens étaient engagés. On a fait ça pendant 9 mois, les élections ont eu lieu, et pour nous, le projet était terminé. Mais il y a eu une demande encore plus forte après les élections, parce qu'on proposait un véritable espace de parole aux gens qui étaient sur le terrain. Puis de plus en plus de radios, surtout des radios communautaires, se sont intéressées à notre émission. Je pense que la force de Democracy Now! Et la raison de son expansion si rapide sont liées à un désir d'entendre des voix authentiques, des gens qui s'expriment en leur nom propre, et pas une petite coterie de présentateurs qui ont très peu de choses à dire sur une multitude de sujets et qui nous expliquent le monde alors qu'ils n'y comprennent rien.
Ce sont les gens à l'intérieur de leur communauté qui sont les experts de leur vie au quotidien, qui sont directement affectés par les politiques nationales et mondiales et qui nous parlent de l'impact de celles-ci sur leur réalité.
16 ans après sa création, ce sont aujourd'hui des dizaines de voix d'amis, de correspondants et de militants qui font converger vers Democracy Now! L'actualité des situations de crise, où qu'elles se trouvent dans le monde. Chaque jour, Amy Goodman rapporte le nombre d'innocents tués par les drones d'Obama et fait longuement intervenir sur son antenne les familles des victimes. Inlassablement, elle rencontre des conséquences du changement climatique en interrogeant ceux qui en souffrent le plus. Elle accompagne les flux migratoires en donnant la parole aux migrants, dénonce les inégalités sociales en rendant voix aux exclus. Une manière collective de fabriquer de l'information, qui fera dire à Noam Chomsky qu'on en apprend plus sur l'état du monde en écoutant cette émission d'une heure qu'en regardant la totalité des journaux américains pendant un an.
Je pense qu'il est extrêmement important de donner la parole aux gens. Je suis convaincue que tous ceux qui se sentent concernés par les questions de paix et de guerre, la montée des inégalités, le changement climatique et l'avenir de la planète ne font pas partie d'une frange minoritaire ni d'une majorité silencieuse. La majorité à laquelle ils appartiennent n'est pas silencieuse, mais elle a été réduite au silence par les médias traditionnels. Et c'est cette parole qu'il nous faut reprendre. Quand vous entendez quelqu'un parler de sa propre expérience, que ce soit un enfant palestinien, une grand-mère israélienne, ou un gamin qui vit dans le Bronx ou dans le sud des États-Unis, vous vous identifiez à eux. Vous vous dites que ce pourrait être votre enfant, votre grand-mère, votre tante, votre oncle. Pourtant, cette personne vient d'Afghanistan, d'Irak ou du Venezuela. Je ne dis pas que vous allez être d'accord avec elle. Même dans nos propres familles, on ne tombe pas souvent d'accord. Mais vous allez commencer à comprendre d'où ces gens viennent. Et il y a de fortes chances pour que vous ayez beaucoup moins envie de les anéantir. C'est le commencement de la paix. C'est pourquoi c'est absolument crucial d'écouter ceux qui sont habituellement la cible des États-Unis. Obama peut bien raconter qu'aucun innocent n'a été tué pendant la guerre des drones qui fait rage au Yémen, en Somalie, en Afghanistan, au Pakistan. Mais nous savons que Zubair Rehman, 13 ans, et sa petite sœur Nabila, 8 ans, qui ramassaient des gombos avec leur grand-mère Momina Bibi, ont entendu le bourdonnement d'un drone dans le ciel. La grand-mère a été tuée sur le coup et les enfants grièvement blessés. Comment justifier la mort et les blessures infligées à cette famille? Tant qu'on ne connaît pas leur histoire, il est possible de croire au discours officiel. Nous ne sommes pas les sténographes de ceux qui sont au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour relayer le message des puissants. L'État a ses propres porte-paroles. La fonction des journalistes est fondamentalement différente. On doit creuser en profondeur, aller jusque là où se trouve le silence. C'est notre travail. Pour faire entendre la parole de ces gens qui ne parlent pas anglais et qui ne seraient invités dans aucune autre émission, on va les voir avec un interprète et ils racontent leur histoire. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais pourquoi continuer de croire l'État? L'histoire des gens mérite d'être racontée, aux auditeurs ensuite de se faire leur avis.
Raconter sur les ondes l'histoire des blessés et des exclus, leur douleur et leur peine. Une histoire du point de vue du peuple et des populations civiles, du point de vue des perdants, des victimes et des dommages collatéraux. Democracy Now! Donne la parole à ces femmes, ces enfants et ces hommes pour mieux briser caricatures et stéréotypes, pour déjouer nos peurs, celles de l'autre, pour réduire les distances et pour qu'on se sente concerné, non pas coupable mais capable d'agir, de crier et de lutter, de descendre dans la rue et de s'exprimer à notre tour pour nous faire entendre de ceux censés nous représenter.
Notre émission s'appelle Democracy Now! Et son sous-titre est « Récits de guerre et de paix ». J'aimerais bien changer le sous-titre, mais nous traitons sans cesse de ces sujets. Et on accorde très peu d'attention à ceux qui prônent la paix. Vous savez, c'est très difficile de faire advenir la paix. très exigeant. Des gens y consacrent leur vie tout entière, et eux aussi ont droit à la parole. Je vais vous donner un exemple. La guerre en Irak, il y a 10 ans. FAIR, un groupe de veille sur l'impartialité de l'information, a analysé les éditions du soir des principaux journaux télévisés avant l'invasion de l'Irak. À l'époque, Noam Chomsky parlait déjà de la fabrication du consentement à la guerre par les médias. Pendant cette période, le secrétaire d'État Colin Powell a prononcé son discours pro-guerre devant l'ONU, affirmant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Pour beaucoup, ce discours a été perçu comme le coup de grâce. La population américaine était partagée de manière à peu près égale entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la guerre. FAIR a étudié les journaux télévisés pendant les 2 semaines qui ont précédé le discours de Colin Powell et a recensé 393 interviews ayant pour sujet la guerre. On aurait dû s'attendre à 200 interviews en faveur de la guerre et 200 contre. Mais non. Sur presque 400 interviews, on a entendu seulement 3 leaders pacifistes. Ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande. Ça s'appelle battre les tambours de la guerre.
Démocracy Now, c'est une émission qui donne une voix à la paix, qui tend un micro à ceux qui se battent pour la démocratie et qui ouvre son studio à des formes d'engagement minoritaires, à des horizons politiques et à des luttes passées sous silence. C'est un programme qui prouve que les médias et les ondes peuvent être le porte-voix de ceux que l'on cherche à faire taire et qui, comme Free Press et le projet Radio Prométhée, démontre que les médias ne sont pas un mal et un outil d'oppression ou de contrôle, mais qu'ils peuvent être au contraire un outil de libération, de rapprochement et de conciliation, et que cela dépend simplement des mains entre lesquelles ils tombent.
Je pense que nous avons besoin de médias indépendants encore plus aujourd'hui qu'avant. Il existe des centaines de chaînes, mais ce qui compte, c'est de savoir à qui elles appartiennent. Pour la plupart, un tout petit nombre de grandes sociétés, des fabricants d'armes ou des sociétés d'assurance. On a besoin de médias qui n'ont rien à voir avec les fabricants d'armes quand ils font un sujet sur la guerre, de médias qui ne sont pas à la solde des entreprises pétrolières ou gazières quand ils parlent de climat, ou en lien avec des compagnies d'assurance ou des laboratoires pharmaceutiques quand il s'agit de santé publique. On a besoin de médias qui reflètent ce que pensent et ressentent les gens. C'est une question de sécurité nationale.
Open up to the mic here.
Yeah, sorry, it's a family affair, you know? So I got to share, it's a family affair. Dust off my cape a little bit, you know?
KWPO, à Henson, dans le Colorado. Une des premières stations communautaires ouvertes, il y a quelques mois, après la libération des ondes par le projet Radio Prométhée.
Song for Kauai, this island right here. Song for love, song for this moment. Yeah. This moment. Yes, this moment. This moment. This moment. Yes. This moment. Yeah. This moment.
Making Waves, une série documentaire d'Alexandre Planck. Nous étions aujourd'hui à Washington, à Philadelphie et à New York, avec Free Press, le Prometheus Radio Project et Democracy Now! Les traductions de l'américain sont de Delphine Simon Bayot, avec les voix de Laure Goroff, Olivier Martineau et Antoine Berry-Roger. Je remercie la SCAM et la Villa Médicis à Rome qui ont soutenu ce projet. Productrice-coordinatrice Irène Omelianenko, attachée de production Christine Bernard et Alison Sinard. Réalisation Alexandre Planck et Bastien Varigo.
Voilà, ce documentaire, vous pourrez le retrouver sur franceculture.fr, la page de Sur les Docs.